Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
Qui a le monopole de Paul Ricoeur ?
Nous voici donc réunis dans ces locaux magnifiquement rénovés et modernisés de l'Institut protestant de théologie pour inaugurer l'installation du fonds Ricoeur. J'ai conscience que nous ne célébrons pas seulement un legs de quelque 15 000 volumes, nous célébrons également l'étendue d'une réflexion, la dimension d'une œuvre qui place certainement M. Ricoeur comme l'un des plus grands philosophes français, en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle.
Il se trouve que c'est le président d'alors qui a assuré l'inauguration du fonds Ricoeur 5 ans après sa mort en 2005. Il l'a fait à sa façon et c'était bien ainsi. Personne n'a le monopole de Ricoeur, lequel a toujours défendu le partage du langage dans la reconnaissance mutuelle. S'il l'avait connu, cette anecdote aurait plu à Nicolas Sarkozy. Entre 1940 et 1945, le jeune philosophe Ricoeur est prisonnier en Poméranie orientale. Un matin qu'il fait très froid, son voisin de Chali se lève le premier. Ricoeur le presse aussitôt de questions. Comment, pourquoi es-tu sorti du lit ? Cette idée de sortir a-t-elle précédé l'acte ou est-ce l'inverse ? Dès l'aube, Ricoeur préparait ainsi sa thèse sur la volonté qu'il ne pourra soutenir qu'en 1950. Et plus tard dans la journée, avec une même gaieté non feinte, il donne des cours à la chambrée transformée en université. Sortir de soi, prendre sur soi, passer par les autres pour être fidèle à soi. Le parcours qui suivra peut paraître classique, surtout marqué en apparence par les changements de poste universitaire, mais aussi par l'installation en 1957 dans la petite communauté des pionniers de la revue Esprit, les Murs Blancs, où il occupera jusqu'à la fin le rez-de-chaussée du pavillon jaune. L'enseignement, la machine à écrire, la lecture sous la lampe. Emmanuel Macron, quand il viendra l'assister dans son travail en 1999, admirera cette vie tout en décidant de ne pas avoir la même. « Me manquerait l'action trépidante », dit-il, et puis attendre la soixantaine pour gagner la reconnaissance. C'est en effet dans les années 1980 seulement que l'influence de Ricoeur s'élargit, les États-Unis ayant d'ailleurs précédé la France. Chez nous, les luttes idéologiques frontales lui avaient longtemps laissé peu de place. On comprenait mal en France qu'on pût être un réformiste et un révolutionnaire en même temps. Puis est venue l'époque des eaux mêlées, pour reprendre le titre de son vieux camarade Roger Icor. L'injonction d'être ce que l'on est ne peut se réaliser qu'avec le concours des autres.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ce qu'atteste le travail constant de notre invité François Dos, bonjour.
Bonjour.
Un philosophe ne s'atteint et ne s'atteste que par la rencontre des autres. Alors vous êtes un maître de la biographie intellectuelle de Deleuze, Guattari, Certeau. Le titre pour Certeau, c'était
Le marcheur blessé.
Ah, c'est pas mal. Pierre Nora. Et puis, il y a 20 ans, une biographie intellectuelle de Paul Ricoeur qui était parue aux éditions de La Découverte. Alors, je ne vais pas vous faire raconter ce qui est maintenant du domaine public. C'est vous qui avez présenté à Paul Ricoeur qui cherchait un collaborateur pour la préparation d'un livre important, Emmanuel Macron. C'est peut-être une question genre sentimentale et Paris Match, mais... Emmanuel Macron a rendu plus heureux Paul Ricoeur dans un moment difficile de sa vie ?
Les deux, oui. Je pense que effectivement, pour Emmanuel Macron, il l'a dit, Paul Ricoeur a été une forme de rééducation philosophique, non pas au sens des camps de rééducation. Hein. Il l'a rééduqué, d'autant qu'il sortait un petit peu de la formation de Balibar, et donc althussérienne. Donc ça, ça lui a totalement ouvert un autre horizon philosophique.
Et de l'autre
pour
côté...
Paul Ricoeur aussi, bien sûr, parce que Paul Ricoeur était là dans le travail de deuil de son épouse, il était dans la préparation de La mémoire, l'histoire, l'oubli, et à un âge déjà avancé, il était extraordinairement content de trouver un regard, une curiosité, ce rapport avec les étudiants qu'il n'avait plus, dont il était coupé évidemment, puisqu'il avait pris sa retraite depuis longtemps.
On ne va pas détailler ses postes universitaires,
bien sûr.
Strasbourg 48, la Sorbonne 56, mais plutôt insister sur les cercles de connaissances et d'échanges Le philosophe s'atteste par la rencontre avec les autres. Vous parlez dans votre biographie du cercle du grand Gabriel Marcel avant-guerre. Et le seul cercle qui existait dans les années 30, qui est survécu et qui vit toujours aujourd'hui, c'est le groupe Esprit. Le groupe Esprit, d'ailleurs, ce sont des groupes.
Ce sont des groupes. Alors effectivement, Ricoeur connaît dès les années 30, hein, la naissance d'Esprit, Emmanuel Mounier, le personnalisme. Il se reconnaît tout à fait dans cette voix inédite qui récuse les deux blocs, qui récuse les perspectives soit capitalistiques d'un côté, soit bolcheviques de l'autre. Et effectivement, quand Paul Ricoeur sera à Strasbourg, il sera d'ailleurs très heureux, dans la fin des années 40, début des années 50, il est un des animateurs du groupe Esprit de Strasbourg. Et en 57, il arrive à Paris et il rentre tout de suite dans la communauté. Mounier est alors décédé, il n'est plus là, mais il y a effectivement à Châtenay-Malabry, au Mur Blanc, une espèce de communauté des adultes, communauté des enfants.
Parce que les enfants différents membres de la communauté qui habitent les Murs Blancs, ils appellent tous les adultes oncles.
Oncles, c'est ça.
Oncle Paul. Donc,
une espèce de fraternité en acte. Entre les Domnac, les Ricoeur, les Maroux, les Fraisses, dans cet univers des Murs Blancs.
Sauf que, quand il y arrive, Mounier, qui avait voué sa vie, son corps, son esprit à la revue Esprit, était déjà mort.
Mounier est mort en 1950. Je suis venu habiter ici en 56, lorsque j'ai été nommé à la Sorbonne, venant de l'université de Strasbourg, et Mounier était donc déjà parti. Et pour moi, ça a été une... J'emploie le mot deuil, un deuil, une blessure de regret, de nostalgie. Lui était plus improvisateur, c'était du grand journalisme, n'est-ce pas ? Et il voyait dans ce compagnonnage, la possibilité d'une collaboration très profonde, pouvant conduire à je ne sais quelle œuvre commune.
Et oui, le grand journaliste a toujours besoin d'un philosophe dans les combats de plumes. À Esprit, on dit, l'événement est notre maître intérieur. Et dans ces années-là, disons qu'on est en 1957, on est au lendemain de Budapest, l'occupation de la Hongrie par les Soviétiques. Et puis on est au moment où le débat sur la torture pendant la guerre d'Algérie commence, dans lequel va d'ailleurs s'inscrire Paul Ricoeur.
Oui, je pense qu'il y a un trait constant de Paul Ricoeur, de sa jeunesse à sa disparition, qui est d'être présent à son temps. Alors, on peut penser qu'effectivement, il y a là une proximité avec le journalisme. Être présent à son temps et répondre aux événements qui vous interpellent et qui deviennent votre maître intérieur, comme le disait Emmanuel Mounier. Il y a ça chez lui et on le voit à toute occasion. Alors c'est vrai que 56, c'est une scansion historique tout à fait majeure et désespérante, puisque de quelque côté que l'on regarde, c'est la désespérance. C'est la guerre d'Algérie, c'est la torture, c'est un gouvernement qui a été élu, le Front Républicain, pour faire la paix qui fait la guerre. On regarde du côté la Méditerranée, c'est l'intervention franco-anglo-israélienne pour renverser Nasser, qui échoue d'ailleurs. Et d'autre part, évidemment, Budapest. Donc, la désespérance sur le monde qu'on croyait le paradis terrestre de l'autre côté du rideau de fer. Écrasement de la révolution hongroise. Et la plupart des intellectuels ont, à partir de là, tendance à se dire que la seule chose à faire, c'est de cultiver son jardin, c'est de tourner le dos à la politique et de pratiquer un scepticisme, on ne peut rien faire, on se replie sur soi. Eh bien, Ricoeur va riposter, c'est un terme qu'il affectionne, il riposte à cet état d'esprit sceptique en avançant, en réfléchissant d'abord pendant un an, et il ne publiera cet article qu'un an plus tard, en 57, dans
c'est
Esprit.
L'article qui s'appelle le paradoxe politique.
Et ce texte est tout à fait fondamental, cette figure du paradoxe. Qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup chez notre nouveau président, qui est la formule du « et », qui est la conjonction. Il faut tenir telle chose et telle autre. Le paradoxe politique, c'est quoi ? C'est de penser ensemble, d'articuler deux traditions du politique, qui sont la tradition de positive, celle qui va d'Aristote à Hegel en passant par Rousseau, et la tradition négative, celle qui dénonce la domination et dans l'État, qui va de Platon à Marx en passant par Machiavel. Et donc Ricoeur est dit, on ne peut pas verser dans le faux dilemme dans un sens ou dans un autre. Non, il faut articuler donc paradoxalement ces deux dimensions.
1964, il fait le choix de quitter le confort de la Sorbonne pour la nouvelle université de Nanterre. Il est attentif au mouvement de mai 68, parce que au fond, on peut être un partisan modéré mais résolu de l'utopie, être réformiste et rester révolutionnaire. Et il accepte une fonction très difficile, celle de doyen par intérim au pire moment en 69-70, quand le gauchisme sans objectif réalisable part à la dérive.
J'ai été envahi dans mon bureau et par un groupe assez menaçant. On m'a dit par exemple que désormais j'étais interdit de séjour dans ma propre faculté et qu'on me casserait la figure si on me voyait dans les couloirs. Bien entendu, j'ai été dans les couloirs et deux jours après, j'ai donc été victime d'une agression personnelle par un groupe très menaçant. Alors, ce qui était en jeu, c'était pas tellement ma personne. Bon, quand j'ai été élu, je savais que je risquais des incidents de ce genre, mais c'est le fonctionnement même de l'institution. La groupusculisation se poursuit et s'aggrave. Et chaque groupe d'extrême gauche subit la pression, et je dirais même le chantage, d'un groupe plus extrême duquel il n'est pas capable de se démarquer. Si nous avions en face de nous un puissant mouvement étudiant, un mouvement dur, mais qui serait capable de contracter, de prendre des décisions qu'il serait capable de faire respecter par ses membres, eh bien, nous aurions un débat sérieux. Et alors, nous réaliserions une sorte de relation souple entre une institution vivante, toujours mise en alerte par la pression externe. Mais alors, il faudrait que cette pression externe soit elle-même organisée avec des gens qui aient un projet pour l'université elle-même.
Et en dépasserait, c'est une interview à Panorama d'Olivier Todd de 1970, le conflit archaïque qui rend impossible la négociation et l'arbitrage.
Oui, mais attention à ne pas télescoper deux événements importants, 68 d'un côté et ce qu'on vient d'entendre qui est de 70. Là, il faut différencier les choses. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Paul Ricoeur fait le choix de la modernité. Il est insatisfait de ses amphithéâtres archi-combles où il n'a plus de relation avec ses étudiants à la Sorbonne. Et il fait le chemin inverse que font beaucoup de professeurs d'université qui veulent tous arriver à la Sorbonne. Lui, il part de la Sorbonne pour aller à Nanterre en 64, au moment de la création de l'université de Nanterre, dite la folie.
Le corps à corps et, avec le nouveau.
Voilà. Et il entretient donc d'excellentes relations. Il dirige toutes les thèses les plus hétérodoxes qui soient dans l'université de Nanterre. Et il est en phase avec 68. Rappelez-vous ces articles dans Le Monde de juin 68, où il applaudit au mouvement, où il y voit une révolution culturelle, une demande de sens, une demande de prise de parole à laquelle il faut répondre. Prise de parole qui sera d'ailleurs le titre d'un livre de Michel de Certeau, qui dit la même chose au même moment en juin 1968. Il défend Cohn-Bendit devant la commission disciplinaire. Il est totalement en phase. Bon, il est tellement en phase d'ailleurs qu'après 68, il fait le don de sa personne, si j'ose dire, pour devenir doyen, ce qui n'est pas tout à fait son charisme, de diriger dans des conditions impossibles le chaudron nanterrois
au moment
après 68.
L'incident de 70, quand il reçoit non pas un chaudron mais une poubelle. Il garde son calme quand même dans cet entretien.
Oui, ça a été monté. Il faut dire que l'histoire de la poubelle, c'est quelque chose qui a été monté en mousse média par ses proches en disant voilà, il faut montrer une limite. Bon, sauf que ensuite, malheureusement, c'est lui qui en a pâti. Il parle beaucoup de l'agir et du pâtir. Il en a pâti parce que on a longtemps dit c'est le doyen, la poubelle sur la tête. Bon. D'ailleurs, l'acteur en question s'est ensuite beaucoup plus tard, des années après, excusé auprès de lui. Ça, c'est un incident qui a été monté en puissance. Non, ce qui a été dramatique après, c'est qu'il a dû banaliser, devant la violence du campus, banaliser le campus, et que Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, n'attendait que cela, et 24 heures après, c'était la police, 187 blessés, et la démission de Ricoeur comme doyen.
Qui va s'éloigner tout en gardant un enseignement en France, en allant davantage aux États-Unis,
absolument,
où il échange plus facilement, oui, dans un esprit de dialogue plus aisé avec, absolument, les étudiants. Mais il n'en garde pas une extrême amertume, parce qu'un trait de caractère très important chez lui, c'est quand même la gaieté. C'est pour ça qu'on choisit maintenant, à cet instant, une sonatine bureaucratique d'Éric Satie, interprétée au piano.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
On l'entendait au piano, Jeroen van Hin. Il paraît que quand Manuel Valls l'irrite beaucoup, Emmanuel Macron se met au piano, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est Paul Ricoeur, 1913-2005. François Doss est l'invité de la marche des idées. C'est un titre qu'il aime bien. Et il a publié à la découverte Les sens d'une vie, Paul Ricoeur. Alors, on se souvient que le fonds Ricoeur a été inauguré en 2010 à la faculté de théologie protestante de Paris. Et on n'a pas dit jusqu'ici que Paul Ricoeur était protestant, ce qui n'a pas échappé au président Sarkozy au moment de l'inauguration de 2010.
Alors, évoquer sa figure, c'est donc évoquer les plus hautes vertus intellectuelles, morales et spirituelles du protestantisme français. Ah, ça fait longtemps que j'avais envie de parler aux protestants français. Ce n'est pas faire injure au principe de laïcité dont les protestants, mieux que quiconque, connaissent la valeur, parce qu'ils se sont toujours battus pour elle, parce qu'ils en sont parmi les principaux artisans. Eh bien, ce n'est pas faire injure au principe de laïcité que de reconnaître dans le protestantisme une pensée de liberté et de responsabilité humaine. Alors, le protestantisme fait partie de notre histoire, fait partie de notre culture, et oserais-je le dire, il fait partie intégrante de notre identité nationale.
L'héritage protestant, c'est autre chose pour moi, c'est l'herméneutique qu'apporte Ricoeur. Et ça, je l'ai gardé.
Sa manière d'interpréter les textes, je dois
voilà, non, traduire. Mais exactement, c'est l'interprétation des textes, la lecture des textes, et la construction d'un va-et-vient critique avec les textes. Ça, je l'ai gardé parce que je pense que c'est extrêmement fort et structurant. Pour la laïcité, pour ma part, j'ai construit mon identité politique et ma conviction profonde dans la filiation à la laïcité de 1905. C'est-à-dire la laïcité telle qu'elle définit la neutralité de l'État, la capacité à vivre en société avec la possibilité de croire ou de ne pas croire, mais la volonté d'intégrer tous et toutes dans un projet politique commun.
Alors distinguons, si vous le voulez bien, François Joss, après le président Sarkozy, Emmanuel Macron, en campagne, c'était la matinale de France Culture avec Guillaume Herner, qui est obligé de lui faire expliquer le sens de tel ou tel mot. Ses collaborateurs disent souvent à Emmanuel Macron, attention, on n'est plus au cours de Ricoeur. Alors on va distinguer justement les mots. Héritage protestant, c'est un philosophe chrétien, Paul Ricoeur, c'est ça ?
Absolument. Ça, il est né dans le protestantisme, d'ailleurs le plus traditionnel. Il est resté fidèle à son protestantisme en l'ouvrant, je dirais. C'est-à-dire que son mouvement peut dire qu'il est passé de la culpabilité à la capacité. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de liberté chez lui il est resté très fidèle à sa croyance de protestant. Mais une ouverture sur l'autre, les autres cultures.
Alors, ça introduit le mot laïcité. Qu'est-ce que c'est la laïcité chez Ricoeur ?
Là, Ricoeur est un intellectuel philosophe laïque, et même militant laïque, puisque je rappelle qu'il a présidé la Fédération protestante de l'enseignement de 47 à 60, ce qui est quand même assez long, où il a été un défenseur en tant que président de la laïcité française, au sens vraiment le plus pur du terme. Et vous savez que la laïcité a été établie historiquement par essentiellement les protestants. Donc Ricoeur fait le partage, la distinction entre ce qu'il appelle la laïcité d'abstention, et c'est ce à quoi d'ailleurs Emmanuel Macron l'a fait allusion quand il parle de 1905, de la neutralité de l'État, là ils sont totalement en synergie, et d'autre part la laïcité de confrontation. Et qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que nous vivons dans une société qui est de plus en plus, comme le disait Dominique Born ou Philippe Joutard, d'inculture religieuse. Et donc, il y a là un certain nombre de repères, ne serait-ce que pour décrypter le patrimoine et notre filiation historique, à faire reconnaître de nouveau et de confronter, de créer une dialogique entre des croyances différentes, des cultures différentes. Et là-dessus, on ne met pas son drapeau dans sa poche. Donc, laïcité d'abstention au niveau de l'État, au niveau de la nation et de la société, laïcité de confrontation.
Alors, puisqu'on parle de la nation, le mot « identité » qu'à tout bout de champ prononçait « identité nationale », disait-il même Nicolas Sarkozy. Paul Ricoeur
parle d'identité narrative, lui, par exemple.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une construction. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le passage, chez Ricoeur, de la même-té, c'est-à-dire de soi, de moi, à ce qu'il appelle l'ipséité, c'est-à-dire au soi, soi-même comme un autre. C'est le titre d'un de ses livres, qui est très explicite. Le soi se construit avec l'autre. Je dirais, sur ce plan, qu'il y a aussi un trait caractéristique de Ricoeur d'un bout à l'autre. Vous évoquiez Gabriel Marcel. Gabriel Marcel disait « être, c'est être avec ». Et Ricoeur, qui a été existentialiste au début de sa vie, très marqué par Jaspers, disait effectivement, il était critique par rapport à Sartre et l'existentialisme sartrien, dont, je ne veux pas réduire Sartre à cela, mais dont on a dit qu'il avait écrit que l'enfer, c'est les autres. Non, la construction de soi-même, c'est les autres. Et cette identité narrative, ce récit de soi, ne peut se construire que avec l'enchevêtrement d'autres vies, d'autres sois, d'autres cultures. C'est comme ça qu'il y a un enrichissement personnel et collectif.
Alors, l'enrichissement collectif, j'insiste sur le mot ipséité. Nos auditeurs sont peut-être étonnés, mais quand le Figaro a fait campagne pour Emmanuel Macron à 150% pendant l'entre-deux tours, il a dit au Figaro, j'ose un gros mot, oui. La nation, a-t-il expliqué au lecteur du Figaro perplexe, ce n'est pas l'ipséité. Ça veut dire, il faut connaître le latin, l'ipséité, c'est ce qui est unique, absolument différent. Donc la nation française, c'est pas une ipséité. Elle n'est pas unique et absolument différente. Elle est entremêlée.
Mais c'est ce caractère mêlé qui crée justement cette singularité qui fait que la France est la France.
Les eaux mêlées, disait son camarade de captivité,
Mais c'est la création d'une singularité à partir de ce mélange des eaux.
Ce qui permet de donner beaucoup de vertu à l'hospitalité, parce que l'hospitalité, c'est le gîte, le couvert, conversation, disait-il.
Et je vous rappelle d'ailleurs que le dernier combat politique et social de Paul Ricoeur a été la défense des sans-papiers, par exemple.
Alors, puisque vous êtes en train de parler sur le mode de l'avertissement, je vous propose d'entendre une dernière fois Paul Ricoeur. En 1991, c'est une interview que j'ai eu l'honneur d'avoir avec lui à France Culture. Et voilà comment il parlait du personnel politique. On a vite fait d'intenter un procès radical à l'action politique, répétait-il.
Le personnel politique français est de bien meilleure qualité que ce que les gens disent ou croient. Ce sont les institutions qui sont mauvaises. Mais à la fois dans l'ensemble des pays industriels avancés, nous ne savons pas faire fonctionner une démocratie représentative maintenant, avec une hiérarchie d'experts, donc avec cette espèce d'expropriation du pouvoir par les experts. Et c'est ça, c'est quand même le problème, comment faire marcher une démocratie représentative. Et alors, avec des vices très particuliers de la France, à savoir la très, très grande faiblesse de la vie associative au niveau de la discussion publique, et puis, d'autre part, une faiblesse de la représentation parlementaire, de la discussion au niveau parlementaire. Je crois que la politique doit fonctionner, mais selon des règles.
Voilà comment l'homme de gauche, il s'est toujours revendiqué comme tel, François Doss, posait les questions libérales, quoi, le contrôle, la discussion, le Parlement, la liberté de discussion.
Voilà, effectivement, Ricoeur pose bien là un des problèmes sur lequel on est, qui reste très actuel, qui est cette coupure qui est de plus en plus mal ressentie, et on le comprend, entre l'expertise d'un côté, l'élite d'un côté, et puis les citoyens de l'autre, qui se sentent de plus en plus effectivement à l'écart des décisions à prendre. Et le souci est donc d'articuler ces deux dimensions en faisant en sorte que le politique, certes dans la démocratie représentative, est devenu un métier, mais que je dirais de manière ricœurienne que l'horizon devrait être que le politique ne soit pas un métier, comme dans la Grèce antique, qui est le berceau de la création de la démocratie, demos kratos, c'est le pouvoir du peuple. Et donc, effectivement, c'est là la réforme clisthénienne, la possibilité de donner aux citoyens le droit de décider après en avoir délibéré. Alors, ça passe par la padeia, ça passe par l'éducation, ça passe par l'éducation politique, évidemment. Et on retrouve là un souci chez Ricoeur tout à fait fondamental, qui est un souci social, civique, du souhait de la vie bonne, qui est l'éthique, et de conjoindre le souhait de la vie bonne avec le légal, le droit, et avec cette notion, il a consacré deux livres à cela, du juste. Justement, le juste, la juste distance, cette tension entre la visée, l'horizon d'attente qu'il faut réouvrir et l'espace d'expérience, et qui est le nôtre, qui est le présent. Et là, je dirais que Ricoeur donne une magnifique leçon d'espérance parce que il a toujours insisté sur la nécessité d'une dimension de l'utopie, d'un horizon d'attente qui ne se réduit pas, qui ne se rabat pas sur notre présent.
Le donc, moderne manque de sens, projet, il faut lui en sens, redonner.
Voilà.
L'essence d'une vie, c'est votre livre sur Paul Ricoeur. François Doss, merci d'avoir été avec nous. Et puis le dernier volume d'articles de Paul Ricoeur paraît au Seuil, philosophie, éthique et politique. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec à la réalisation Liscombe, à la technique Lucas Vaillant.